Salut à tous, vous êtes dans le Labomatique, l'émission de Radio Campus Rennes dédiée à l'actualité de la recherche scientifique. Au programme du Labomatique cette semaine, nous revenons sur une exposition organisée par la mission de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, autrement appelée mission PATSTEC, en collaboration avec l'association Armoristel. Notre sujet ? Et si le Minitel était l'ancêtre d'Internet ? Peu connue du grand public, la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain a été créée en 2003-2004 sous l'impulsion du ministère de la Recherche et par l'intermédiaire du Musée des Arts et Métiers de Paris. Une étude de repérage des objets patrimoniaux avait été réalisée entre 1996 et 1999 dans les laboratoires d'enseignement universitaire et les organismes de recherche de la région des Pays de la Loire. Cette étude avait permis d'éclairer la diversité et la richesse des fonds patrimoniaux de chacune de ces institutions. À partir de ce constat, un programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain a été mis en œuvre à l'échelle régionale de 1999 à 2004 dans les organismes de recherche et les laboratoires universitaires. Tout en se poursuivant à Nantes et en Pays de la Loire, le programme s'est donc généralisé en 2003 au niveau national. À l'occasion de l'exposition Le Minitel, ancêtre d'Internet, nous avons pu rencontrer Audrey Chambé, chargée de collection à l'université Rennes 1, à la commission du culture scientifique et technique, et chargée de mission à la mission PATSTEC Région Bretagne. Elle nous présente les activités de la mission et l'importance de ses collections, avant que nous revenions sur l'histoire du Minitel en compagnie de Christian Drouineau, président de l'association Armoristel.
Alors, la mission PATSTEC est donc une mission de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, c'est-à-dire de 1960 à nos jours. Donc, cette mission se veut nationale avec des antennes régionales, qui aujourd'hui est au nombre de 17. Et il y a également des partenaires industriels ou de recherche tels que Michelin ou le CEA et Cylor, ces choses-là. Donc la mission Bretagne a trois objectifs principaux qui sont donc tout d'abord le fait de sensibiliser au niveau de la région, au niveau des établissements d'enseignement supérieur mais également de l'industrie à cette sauvegarde de ce patrimoine scientifique et technique. Nous devons également valoriser ce patrimoine, donc comme cette exposition en est le parfait exemple. Et nous avons l'obligation de rentrer des fiches d'inventaire qui sont visibles sur le site internet. Donc pour ces fiches d'inventaire, il y a toute une procédure. Par exemple, un instrument dans un laboratoire. Le laboratoire vient d'acheter un nouvel instrument de pointe pour ses recherches. Mais celui qui a servi avant de le mettre à la poubelle, ou bien au domaine, ou autre, eh bien, il nous contacte. Nous effectuons une expertise pour savoir si cet instrument est digne ou non de rentrer dans les collections.
D'accord, donc c'est fondé sur une expertise. C'était une question que je comptais vous poser. Quels sont les objets dignes de rentrer dans ce patrimoine scientifique et technique ?
Alors en fait, ce sont des objets qui sont symboles d'une découverte scientifique. Ça résume tout.
Très bien. Alors, vous constituez aussi donc des collections thématiques. Est-ce que vous pourriez peut-être nous les présenter rapidement pour qu'on se rende compte un peu de l'étendue de ce patrimoine scientifique et technique ?
Donc, nous parlions donc de la commémoration des 10 ans de la mission PATSTEC au niveau national, mais c'est également un clin d'œil pour notre mission régionale et particulièrement la mission qui a été entreprise par Dominique Bernard et Jean-Paul Taché au sein de l'Université de Rennes 1 pour valoriser, sauvegarder les instruments anciens. Donc notre collection est fondée sur des instruments qui datent de la création de l'Université de Rennes 1 en 1840. Donc là nous avons des pièces d'exception telles que des balances de Curie numérotées, non pas des prototypes entre guillemets, un grand diapason, un gyroscope de Foucault. Toutes ces pièces que je viens de citer sont très rares. Et il n'y en a que quelques exemplaires en France, voire dans le monde. Certains objets datent également du cabinet de curiosité de Christophe-Paul Céleste de Robien, 18e siècle, et aussi de l'ancien muséum d'histoire naturelle de Rennes. Car il faut préciser qu'il y avait un muséum d'histoire naturelle de Rennes jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, les collections riches de 1 300 000 spécimens approximativement datent de différentes époques. Il y a donc une collection de fresques qui ont été commandées pour faire le décor de l'Institut de géologie. Donc une collection de fresques de Mathurin Méheux et Marie-Yvonne Jean-Affen qui sont, elles, classées au titre des monuments historiques.
Et vous avez constitué, me semble-t-il, des collections donc de la zoologie, de la botanique.
Voilà. Alors effectivement, la mission PATSTEC est propre donc à l'instrumentation scientifique et technique, mais les collections scientifiques et techniques de l'Université de Rennes sont composées d'autres collections, donc la zoologie, la géologie ou la botanique et ces choses-là.
Comment le public peut-il avoir accès à ces collections et est-ce que vous organisez des temps forts peut-être dans l'année ?
Tout à fait. Donc il y a des galeries de présentation de ces objets. Donc il y a le musée de géologie qui se trouve sur le campus de Beaulieu qui lui est en accès libre toute la journée. Sur des horaires traditionnels de bureaux, par exemple. Donc le public peut se rendre au musée et visiter nos collections. Nous avons d'ailleurs de très belles fresques de Mathurin Méheux et Marie-Yvonne Jean-Affen, des très beaux décors, des peintures monumentales de 3-4 mètres, impressionnantes. Et ce ne sont pas des reproductions, hein, je tiens à le préciser. Et également donc une première partie de minéralogie et puis ensuite de géologie, paléontologie, etc. Mais par contre, pour les autres galeries qui sont la galerie des instruments scientifiques ou de zoologie ou la serre botanique, ce sont des visites seulement sur réservation.
J'avais une question peut-être un peu plus technique, c'est par rapport au statut des objets. Sont-ils protégés juridiquement par exemple ?
Alors au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucun objet qui est classé.
D'accord.
Des monuments historiques ou d'autres types de classements. Nous avons effectivement ce questionnement pour notamment le prototype de l'électroaimant de Pierre Weiss, car nous avons la chance de l'avoir dans nos collections d'instruments scientifiques ou même les appareils de Curie, comme je vous disais. Pour l'instant, nous ne sommes qu'en réflexion, car cela nous imposerait notamment beaucoup de contraintes du point de vue du stockage ou de la conservation, et le montage de dossiers est important. Donc nous sommes vraiment en réflexion autour de ce questionnement. Mais effectivement, ce serait certainement la meilleure des choses qui puisse arriver à ces objets.
D'accord. Alors donc, la constitution de ce patrimoine scientifique et technique suscite des interrogations. Est-ce qu'elle suscite des recherches aussi ?
Tout à fait. Nous faisons donc des recherches en histoire des sciences. Donc Dominique Bernard s'est concentré sur l'histoire des électroaimants avec la collaboration de Paolo Breni ou Monsieur Loude. Cela a donné lieu à des publications, des colloques, des conférences. Ensuite, nous réalisons également des recherches en histoire des laboratoires. Là, il y a eu donc la recherche sur les laboratoires de chimie à l'Université de Rennes, donc de sa création jusqu'à ici, au campus de Beaulieu. Voilà, ce sont des recherches soit sur les instruments, soit sur les laboratoires, par exemple. Donc la mission PATSTEC se veut également fédératrice. Nous sommes un réseau qui comprend également l'université l'UBO à Brest, ou bien différents musées comme le musée de Bretagne ou l'écomusée de la Bintinet. La sauvegarde du patrimoine scientifique et technique ne se veut pas stricto-rennaise. Elle se veut véritablement à l'échelle régionale. Donc c'est pourquoi nous sommes constitués d'un comité de pilotage afin de prendre des décisions communes sur l'ensemble de la région. Et ensuite, chacun des intervenants dans ces établissements nous font part de leurs actions. La mission nationale, donc composée de 17 antennes régionales et puis les partenaires donc industriels, nous nous retrouvons deux fois à l'année lors d'un atelier en région, donc un atelier qui nous permet donc de travailler sur les inventaires, sur le site internet pour apporter des modifications. Grand questionnement également, le tri. Doit-on tout accepter ? Comment devons-nous procéder au choix des thématiques de sauvegarde ? Et puis aussi, donc là, au mois de novembre, un rassemblement national, la journée nationale qui se trouve donc au CNAM, Musée des Arts et Métiers à Paris, où là, nous convions tous nos partenaires nationaux, ainsi que le ministère, afin de faire la synthèse de nos activités et ainsi apporter aussi les nouveaux, l'avenir de la mission. Il y a également des séminaires de recherche, 4 sur l'année, où nous abordons donc différentes thématiques avec des interlocuteurs européens qui parlent eux aussi de leur expérience du point de vue de la sauvegarde et de la valorisation de leur patrimoine contemporain.
Bonjour, c'est moi, le Minitel. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Retrouver des amis d'enfance ? C'est un jeu d'enfant avec la lumière électronique. Ça y est, il n'y a plus qu'à les inviter.
Sans transition, nous allons parler d'un sujet qui vous concerne, ou en tout cas, qui va vous concerner très bientôt dans votre vie quotidienne. Je veux parler de l'informatique au quotidien.
Eh bien, en Ille-et-Vilaine, depuis le début de l'année, au lieu de rechercher dans un bottin qu'on n'a pas toujours, vous voyez tous les bottins qu'il faut, on peut rechercher d'une façon différente avec ce que vous avez appelé, Noël, l'informatique au quotidien.
Destination, horaire, réservation, c'est parti ! Vous savez, je peux en faire des choses pour vous. Faites-le en Minitel.
Annuaire, électronique, de quoi s'agit-il ?
C'était MSN avant l'heure. C'était du MSN, de toute façon, c'est pas dur. Tout ce qui est forum, tout ce qui est MSN, tout ce qui est tout ce qu'on a aujourd'hui comme technologie de communication, hormis l'aspect portable, est facile. C'était déjà inventé à l'époque.
Vous l'aurez compris, le Minitel est à l'honneur en ce mois de janvier 2015, pièce maîtresse dans le patrimoine télécom contemporain français, et notamment breton, car c'est bien en Bretagne qu'il a été pensé et expérimenté pour la première fois. Dans le hall de la bibliothèque Sciences et Philosophie du campus de Rennes 1, c'était l'occasion pour les Digital Natives de jeter un coup d'œil sur les inventions des Baby Boomers. Pour en parler, j'ai rencontré Christian Drouineau, président de l'association Armoristel et ancien de chez France Télécom.
L'exposition sur le Minitel est une exposition que donc l'association Armoristel a conçue en 2011 et a été reprise à 2 ou 3 occasions depuis. Armoristel signifie Association Armoricaine de Recherche Historique sur les Télécommunications. C'est une association qui est membre d'une fédération, la Fédération Nationale des Associations de Recherche Historique de La Poste et de France Télécom. En fait, Armoristel a été créé en 1992 par des salariés ou anciens salariés de France Télécom qui avaient le souci de la préservation de la mémoire, des services, des matériels ou des logiciels créés et gérés par leur entreprise. Nous étions alors en 92 à l'époque des transformations des entreprises de télécommunications. Et beaucoup de choses, les choses évoluaient rapidement. Beaucoup de choses aussi étaient malheureusement mises au rebut. Et ces salariés se disaient, mais il ne faut pas laisser partir tous ces équipements sans qu'on ait essayé de les préserver, de manière à les valoriser pour les générations futures. C'est ce qui fut fait, donc au travers de la création de cette association. Depuis ces années 90, cette association s'est largement ouverte à d'autres personnes, d'autres institutions venant d'autres entreprises, personnes qui recherchaient les mêmes objectifs, à savoir préserver cette mémoire des télécommunications. Alors, l'association Armoristel, elle est forte aujourd'hui d'une centaine de membres, un certain nombre de personnes morales la soutiennent également. Son activité est principalement orientée vers l'organisation de manifestations, conférences, expositions, retraçant cette histoire des technologies de l'information et de la communication. Par exemple, nous avons en 2007 présenté une exposition sur l'histoire de la radiodiffusion, 2008 une exposition sur l'histoire de la télévision. Alors, ces expositions étaient présentées comme expositions temporaires à l'espace férié, le musée des transmissions, qui est situé sur la technopôle Rennes-Atalante, en face Supélec, avenue de la Boulaye, en 2011, pour commémorer les 30 ans à l'époque du service Minitel. Nous avons mis en place une exposition qui s'était intitulée « Du Minitel à Internet, 30 ans de service en ligne » en octobre 2011, donc date de cette exposition. Le Minitel était encore opérationnel, puisque je vous rappelle, il a terminé ses services en juin 2012, le 30 juin 2012. Plus récemment, nous avons présenté une exposition qui était un peu différente, moins technologique, qui s'intitulait « Comme Art ». Notre objectif était de présenter comment les télécommunications, l'audiovisuel, les TIC en général, ont pu inspirer les artistes dans la création d'œuvres diverses.
C'était important pour vous d'être présent dans les locaux de Rennes 1, là où on forme des ingénieurs et des futurs chercheurs dans le monde des télécommunications?
Non, c'est important, vous avez raison de le souligner, parce que Rennes 1 est au cœur, peut-être un des premiers établissements existants sur la technopole Atalante. La technopole n'existait pas à la création de Rennes 1. Et les études sur le Minitel ont aussi été menées dans un établissement renommé de la technopole, qui était celui des laboratoires de recherche de France Télécom, de la DGT à l'époque, Direction Générale des Télécommunications, qui s'appelait le CCETT, centre commun bien connu entre la télévision et les télécommunications. Donc le Minitel, on peut dire, les premières études ont été menées à Rennes, dans les laboratoires du CCETT. Elles concernaient principalement le Vidéotex, le système Antiop, et ce sont toutes ces études qui ont donné par la suite naissance aux services et aux produits qui ont composé le service Minitel. Au-delà des études, le département d'Ille-et-Vilaine et la Bretagne au sens général, en incorporant aussi bien sûr les collègues des laboratoires du CNET à Lannion, ont œuvré pour les premières expérimentations opérationnelles du Minitel, puisque je rappellerai que la première expérimentation grandeur nature a été menée à Saint-Malo avec 50 cobayes qui ont expérimenté un terminal qui s'appelait la maquette esthétique, qui était, disons, un écran clavier, l'électronique étant cachée sous la table. Ben, ces 50 cobayes ont été les premiers expérimentateurs de l'annuaire électronique.
Premier service du Minitel.
Premier service du Minitel. Et l'Ille-et-Vilaine, d'ailleurs, au-delà de cette première exploitation, avait été choisie comme département pilote par Gérard Théry, qui était à l'époque le directeur général des télécommunications, pour expérimenter la distribution en vraie grandeur de ces terminaux Minitel. Puisque n'oublions pas qu'à l'apogée du service militaire, donc dans les années 95-96, il y a eu jusqu'à 7 millions de terminaux sur le territoire national. 7 millions distribués gratuitement à tous les foyers français. Donc c'était la technique n'était pas rien, mais les modes de distribution aussi, on était dans des actions toutes nouvelles. Ça avait demandé aussi, ne serait-ce que ces modes de distribution, des expérimentations. Et c'est en Ille-et-Vilaine qu'on les avait menées.
Dis, papa, quand est-ce que tu vas chercher ta voiture?
Regarde, je fais le 11, je tape le nom du garage, et après je suis la petite flèche.
Quand est-ce que tu vas chercher ta voiture?
Eh bien, je suis la petite flèche et elle me dit tout. Voilà, c'est indiqué, je peux y aller ce soir. Et comment j'y vais?
Il a été souligné lors de la visite de l'exposition l'importance aussi du rapport Nora et Minc, donc ce qui s'appelle l'informatisation de la société. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer en quoi ce rapport a été important, puisqu'il me semble qu'il souligne aussi un regard de la part des pouvoirs publics aussi sur la question des télécommunications en plein essor à la fin des années 70?
Bien sûr, le rapport Nora-Minc, qui date des années 78-79, a été un élément essentiel. Il avait été commandé de mémoire, je crois, par le président Giscard d'Estaing, voilà, qui avait constaté avec les gens concernés que la France, disons, avait un retard en termes d'équipement téléphone. Et donc l'idée du rapport Nora-Minc était effectivement de rassembler toutes les énergies et de changer cette situation en développant effectivement les services qui convenaient pour que les télécommunications, la télématique, puisque c'est de là,
c'est le concept,
c'est là qu'est né le concept de télématique, de ce lien entre les télécoms et l'informatique. Ce concept, disons, a permis justement le lancement d'études pour mettre au jour différents services comme le Minitel, Vidéotex en était un.
D'accord. Et il me semble aussi que le Minitel apparaît dans un contexte où les questions de télécommunications se discutent à l'international aussi. Il y a une concurrence internationale qui existe à cette époque.
Bah, disons que c'est à partir de là qu'on a vu l'importance des travaux dits de normalisation,
voilà. Hein,
qui étaient menés à la fois au niveau européen et au niveau mondial. Au niveau européen, au travers d'organismes comme la CEPT, la Conférence européenne des postes et télécommunications, qui regroupait à l'époque essentiellement les opérateurs des postes et des télécommunications, puisque nous étions à une époque où les services n'étaient pas ouverts à la concurrence, c'était les opérateurs publics qui offraient ces services-là. Donc ça, ça a été au niveau européen. Et puis tout ça a été aussi repris, travaillé de nouveau au niveau mondial, au travers d'organismes comme l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, qui avait effectivement le pouvoir de définir les standards sur les recommandations, nous appelions ça, dans le domaine des services de télécom, comme il existait aujourd'hui aussi l'UIR, l'Union internationale des radiodiffusions, qui était chargé de définir les recommandations dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision.
Très bien. Alors, on a parlé d'un service, donc l'annuaire téléphonique disponible sur le Minitel, mais vous aviez dit tout à l'heure, lors de la présentation de l'exposition, qu'on est arrivé à plus de 20 000 services sur le Minitel. Comment tout ça s'est développé ?
Tout cela s'est développé sur plusieurs années, hein, en fonction aussi du déploiement des terminaux, mais de nombreux opérateurs de services, que ce soit les banques, que ce soit, je sais pas, les opérateurs de voyage, etc., etc., ont vite compris l'intérêt qu'ils pouvaient avoir à s'associer, comment dirais-je, au déploiement du Minitel et à l'exploitation de ces services. Mmh. On est au niveau du développement des services qu'on appelait Télétel, mmh. qui ont beaucoup bénéficié du développement d'un système qui s'appelait le kiosque, qui permettait effectivement à l'utilisateur de ne connaître d'un point de vue facturation que l'opérateur de télécommunication. Et c'est au travers de sa facture de l'opérateur de télécommunication qu'il payait aussi le fournisseur de services. Tout ça faisait qu'il y avait une simplicité d'usage, une confidentialité aussi dans l'accès aux services, puisque il n'y avait pas, comme on le connaît aujourd'hui dans beaucoup de services télécom ou internet, d'identification et de mot de passe. C'était complètement transparent pour l'utilisateur. De ce fait, ces services-là ont connu un franc succès et ont intéressé de nombreux fournisseurs de services. À l'apogée du déploiement des terminaux, je vous dis, on avait recensé 20 000 services. Je me souviens que l'opérateur Télétel, enfin, au travers de France Télécom, éditait tous les ans un annuaire des services Télétel.
L'ordinateur, vous voulez une petite démonstration ?
Ah, j'adore vos gadgets. Écoutez, et j'aime bien voir vos démonstrations.
J'ai une idée qui est de rechercher un monsieur qui s'appelle Joyeux, dont j'ignore l'orthographe exacte. Et je vais regarder, vous le voyez ici, si monsieur Joyeux, que je connais, qui habite bien à Paris, peut se retrouver dans cet annuaire électronique qui n'est qu'un ordinateur des postes et télécommunications à l'autre bout de la ligne. C'est mon téléphone qui a permis de l'appeler. Monsieur Joyeux, me dit-on, il y en a 80 comme ça. Alors si je regarde la liste des 80, je vais bien sûr trouver des noms avec des orthographes voisines qui m'ont rectifié un peu parce que je ne savais pas, mais je ne vais pas vous défiler les 80. Alors, souvenons-nous, monsieur Joyeux, comment s'appelle-t-il de son prénom ? Allez, je vous le dis.
Allez-y.
Il s'appelle Noël.
Ça, c'est gentil.
Joyeux Noël.
Oui, parce que c'est aussi un modèle économique qui était proposé avec le Minitel, une façon aussi de faire de l'argent.
Original, ouais, oui, tout à fait. Ouais. Et c'était à la fois original dans son concept, intéressant pour l'opérateur, bien évidemment, mais aussi intéressant pour les fournisseurs de services. Et c'est pour ça que tout ce système-là a bien fonctionné.
Ça a été une réussite économique globalement, maintenant qu'on regarde un peu en arrière
Je pense qu'on peut dire que ça a été une réussite économique. Je veux dire, ça a été une belle innovation française qui a très bien fonctionné en France, un petit peu à l'étranger, mais un petit peu moins. Et en France, je veux dire, on l'a bien vu. Et c'est significatif au moment où le service a été définitivement fermé en juin 2012, malgré le fait que déjà de nombreux fournisseurs de services avaient basculé sur le monde Internet, que même en juin 2012, la fermeture du service avait, avait conduit à une certaine tristesse de nombreux acteurs.
Succombant au succès d'Internet, le Minitel s'éteint définitivement le 30 juin 2012 pour ses 30 ans. Il a connu son apogée en 2002, équipant alors 9 millions de foyers et entreprises. Mais son succès n'a cependant pas permis au Minitel français de s'exporter au-delà des frontières. Fin 2010, le Minitel ne permettait plus l'accès qu'à 1880 services, loin des 25 000 proposés en 1996 et 97, et comptait encore quelques 1,7 million d'utilisateurs. La même année, il ne restait plus que 810 000 terminaux en circulation, mais le service était par ailleurs utilisé sur ordinateur par 950 000 usagers grâce à un logiciel lancé en 2000 qui va également disparaître.
J'en ai un à la maison.
Des vieux souvenirs. Enfin, moi, j'en ai pas eu un chez mes parents, donc pas concret. C'est pour envoyer des fax, je crois.
Ouais, non. C'est pas l'ancêtre de l'ordinateur ?
Oui.
Je connais pas le Minitel.
Alors là, je l'ai connu, rarement utilisé, je sais même pas comment ça s'ouvre.
C'est la première fois que j'en touche un d'ailleurs.
Je me rappelle plus grand chose, juste appuyer sur les touches.
J'explique à ma fille, c'était avant les ordinateurs, on va dire. Avant Internet. C'était bien galère.
Oh c'est génial.
C'est quoi Minitel ? Pour chercher une adresse, je l'ai jamais trouvée.
Un annuaire un peu plus large que l'annuaire papier, quoi, je crois. C'est tout ce que j'ai souvenir, hein, en fait.
C'était hyper pratique pour les pages blanches, les pages jaunes.
Quand ma grand-mère elle cherchait les horaires de TER sur Paris sans le Minitel avant qu'on y aille.
Moi, ça me servait surtout pour trouver les numéros de téléphone dans toute la France, quoi.
Je me rappelle, moi, du 3611 qui m'a beaucoup servi quand j'étais plus petit. Pour les numéros de téléphone, c'est les pages jaunes, en fait, c'était ça, quoi.
Des calculs, du traitement de texte.
Je pense qu'on est trop jeunes, en fait.
Ouais, bah, c'est toi, je me souviens pas.
Non, moi, je me souviens pas.
Ah bien sûr, 3615 Lula, 3615 Astérix.
Les trucs de voyage, la last minute, ça a commencé sur le Minitel, c'était super bien, la page s'affichait en 3 minutes à peu près.
Et quand j'appuyais sur envoie, envoyer les messages par Minitel, aïe, c'était super bon.
Alors oui, il y avait les 3615 Oula.
On pouvait agrémenter nos soirées d'hiver de rencontres furtives.
Des choses utiles. Tu vas appuyer mon fils ? Vas-y, connexion, envoie. Vas-y, tu peux envoyer la smoule. Super. Voilà.
Vous avez vu, moi qui regarde ça avec un œil de jeune homme de 25 ans qui n'est pas forcément connu toute l'évolution, ni même je ne me suis jamais servi personnellement d'un Minitel, c'était plutôt mes parents qui le faisaient. Comment expliquer le fait que c'est survécu jusqu'en 2012 alors que Internet était quand même déjà très très bien installé ?
Oui, Internet était déjà bien installé, mais je vous rappelle que les terminaux Minitel ont été distribués dans toutes les familles. Mmh. Dans toutes les familles. Un des objectifs, d'ailleurs, rappelons-le, du Minitel, même si ça n'a pas été constaté de fait, c'était au départ de supprimer l'annuaire papier. Hein, le service annuaire électronique avait pour objectif un petit peu de pouvoir se passer de l'annuaire papier. En fait, on a bien vu au fil des années que les deux le Minitel s'est développé, a présenté un certain nombre d'intérêts pour les utilisateurs, mais que l'annuaire papier a perduré, quoi. Hein. Oui. Bon, donc, alors, qu'est-ce qui a fait que ça a connu un succès ? D'abord, à mon avis, c'est que ça a été une distribution grand public. Et c'était aussi, quand on distribuait le Minitel dans les foyers, c'était la première fois qu'on dit que la plupart du temps disposaient d'un terminal écran clavier à la maison. Donc au travers du Minitel, au travers de ces années, alors les gens ont appris à servir d'un écran et d'un clavier. Le clavier était alphabétique, hein, pour faciliter l'ergonomie de dialogue. Donc on a appris à se servir de cet outil-là. Ce qui fait que quand les gens, progressivement, dans les dernières années de vie du Minitel, les gens basculaient sur l'Internet, eh bien, ils rentraient dans un monde qui ne les effrayait pas forcément, puisqu'ils avaient déjà, au travers du Minitel et de ses services, expérimenté un certain nombre de choses. On peut dire qu'ils avaient expérimenté déjà le commerce en ligne, puisque à partir du Minitel, on pouvait tout à fait prendre des réservations, commander des biens, on pouvait même les payer avec une carte ou une carte à puce. Hein. Et donc, c'était déjà précurseur du ce qu'on appelle aujourd'hui le e-commerce. Donc, je pense que l'accès à l'Internet et à ses services a été facilité quelque part par l'apprentissage qui a eu lieu dans les foyers français avec le Minitel.
Donc quand vous posez la question sur l'affiche de l'exposition, à savoir si le Minitel est l'ancêtre d'Internet, on peut répondre par l'affirmative.
Je pense que l'on peut répondre sans l'affirmative, au moins sur certains aspects. Hein. Ouais. Bien évidemment, l'Internet a développé de nombreux autres services ou une capacité de réseau et de puissance une puissance de transmission ou de gestion de données beaucoup plus importante, mais les principes, on peut dire que certains principes ont été découverts et valorisés au niveau des services Minitel.
Alors, le dernier panneau de l'exposition revient sur l'héritage d'aujourd'hui par rapport au Minitel. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les grandes innovations techniques qu'on en a retenues ?
Alors, des services, on vient d'en parler un petit peu, ne serait-ce que le commerce en ligne, le modèle économique, tout ça. Ouais. Au niveau des innovations techniques, on a bien vu que la dernière génération de Minitel mettait en œuvre des modems plus rapides, mettait en œuvre aussi des codages plus évolués. Et en particulier, même si ils n'ont pas fait l'objet d'une grande commercialisation ou distribution, les derniers terminaux Minitel, notamment les Magis, la gamme des Magis, géraient à la fois de l'alpha numérique, de l'alpha géométrique, des codages qui avaient été développés pour le vidéothèque, mais aussi le codage photographique. Et c'est dans le cas des études sur les évolutions des services Minitel que on s'est intéressé aux études sur le codage photographique. La norme JPEG, les points JPG que l'on connaît aujourd'hui sur tous nos appareils photo ou tous nos smartphones, eh bien, les travaux de normalisation, vous parliez de normalisation tout à l'heure, ont été développés dans cette période du Minitel par des groupes à la fois de l'ISO, qui est aussi un autre organisme de standardisation qui associe non seulement les opérateurs mais aussi les industriels, et puis par l'UIT dont je parlais tout à l'heure. On peut aussi y penser, mais ça c'est un peu plus peut-être sujet à question, mais déjà sur certains Minitel à l'origine, nous étions capables de connecter des cartes mémoire, des petites cartes mémoire, ce qu'on connaît aujourd'hui sur les micros comme les clés USB. À l'époque, ça s'appelait pas clé USB, mais on pouvait connecter au travers d'une prise DIN. C'était une prise DIN, une petite extension mémoire. Pour information, elle faisait 32K. Ok. Ce qui est un peu ridicule par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui.
Forcément. Un souvenir absolument ineffable.
C'était pas très rapide, mais bon, à l'époque, c'était pas gênant, au contraire, ouais. C'était marrant.
Quelque chose de très lent.
Mais le Minitel, il y avait un sacré clavier, je m'en souviens de ça.
Un petit écran.
Des souvenirs des premières recherches d'informations.
Dans ma famille, c'était le jeu avec ma sœur.
J'allais au travail de mon père pour jouer.
On rentrait des noms de villes pour, je sais pas pourquoi, pour explorer quoi.
Enfin, il a eu la note de son entreprise. Et bon, mais ce jour-là, c'était pas un très bon jour pour moi.
Donc c'était un jeu avec ma sœur. On jouait toutes les deux au Minitel.
Un petit souvenir d'enfance, de jalousie, parce que mes grands-parents avaient un Minitel, puisqu'ils habitaient en Ille-et-Vilaine, et nous, on habitait un autre département, on n'en avait pas. Je trouvais que c'était absolument fabuleux d'avoir ce petit écran, ce petit clavier.
Je me souviens avoir regardé mes résultats du bac dessus, donc c'est un gros moment d'émotion quand même.
Et on contrôlait le temps passé sur le Minitel, parce qu'à partir d'un certain temps, c'était payant.
C'était quand même mieux qu'un Mac.
T'es trop jeune pour le Minitel rose.
C'était le Labomatique, l'émission de Radio Campus Rennes dédiée à l'actualité de la recherche scientifique. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur www.radiocampusrennes.fr. Selon la date à laquelle vous écoutez l'émission, sachez que la mission PatsTech et l'association Armoristel vous proposent une visite guidée de l'exposition Le Minitel, ancêtre d'Internet. Celle-ci aura lieu le jeudi 22 janvier de 17h30 à 18h30. Pensez à réserver en envoyant un mail sur réservation au singulier-collection au singulier toujours @univ-renin.fr.